19h, bienvenue sur Europe 1.
Et c'est donc l'information de cette soirée. Un enseignant décapité en région parisienne. Un suspect abattu par la police. Le parquet antiterroriste est saisi. Les toutes dernières infos, bien sûr, dès le début de ce journal.
Ce soir, c'est minuit, mais à partir de demain, ce sera donc 21h. Les Parisiens entendent bien profiter de cette dernière soirée. Les restaurants affichent complet.
Au travail, la nouvelle mise à jour du protocole sanitaire vient d'être publiée. Les entreprises doivent fixer un nombre minimum de jours de télétravail par semaine.
Le Brexit, les négociations sont bloquées. Boris Johnson accuse Emmanuel Macron d'être braqué sur la question de la pêche.
Et puis on prendra de l'altitude et du bon air à la fin de ce journal. Ouverture des premières pistes de ski.
La tendance météo avec Anissa qui nous a rejoint. Du soleil et du froid pour ce samedi.
Oui, les températures sont encore demain bien fraîches pour la saison avec des gelées matinales. Mais le soleil sera bien plus présent. Le week-end s'annonce très agréable. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Oui, d'abord donc cette information qui nous est parvenue il y a moins d'une heure.
Un homme décapité en région parisienne, Guillaume Bier.
Oui, les faits se sont produits à 17h à proximité d'un collège de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, à la limite du Val-d'Oise. Un assaillant armé d'un couteau a attaqué un homme sur le trottoir. D'après nos informations, la victime est un professeur d'histoire de ce collège. Lundi, en classe, il avait montré à ses élèves les caricatures de Mahomet, celles publiées par Charlie Hebdo. Auparavant, il avait proposé aux élèves que cela dérangerait de sortir de la classe. Il n'empêche, son cours avait ensuite provoqué des remous et des réactions de parents d'élèves choqués. Des réactions qui ont pris une tournure criminelle et terroriste aujourd'hui, puisque selon les premiers éléments de l'enquête, ce serait en représailles que cet enseignant a été attaqué tout à l'heure et décapité. Acte revendiqué sur Internet il y a quelques minutes dans un message qui est en cours d'authentification. Juste après ce crime, la police municipale est intervenue. Les agents ont été menacés par l'assassin. Ce sont ensuite les policiers de la BAC qui sont arrivés. Eux aussi ont été menacés par le tueur qui a crié « Allahu Akbar ». Il n'a pas répondu aux injonctions des policiers qui ont donc ouvert le feu et l'ont abattu à Éragny dans le Val-d'Oise. C'est la commune qui est juste en face, toute proche. Un périmètre de sécurité a été établi sur place. Les démineurs ont été appelés parce que les premiers intervenants craignaient que l'auteur ne porte un gilet explosif, menace désormais écartée. Sa motivation terroriste ne semble pas faire de doute à cette heure. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de cette affaire. Elle est confiée aux enquêteurs spécialisés de la SDAT, la sous-direction antiterroriste, et de la DGSI pour le volet renseignement. Voilà donc pour les informations sur ce professeur d'histoire tué, décapité devant son établissement. Une nouvelle attaque sanglante en lien manifestement avec les caricatures de Mahomet. Nous sommes 3 semaines après celle perpétrée à Paris devant les anciens locaux de Charlie Hebdo.
Et on apprend à l'instant que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, rentre en urgence du Maroc. Merci Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1.
Merci pour ces informations de dernière minute. On y reviendra évidemment si de nouvelles informations nous parviennent d'ici à la fin du journal. 19h03, dans l'actualité également ce soir, cette dernière soirée de liberté avant l'entrée en vigueur des couvre-feux dans les 9 métropoles concernées. Ce soir, on peut encore sortir jusqu'à minuit, mais à partir de demain, 21h, tout le monde devra être à la maison.
Et pour les quelques 20 millions de Français impactés, ce vendredi soir a une saveur forcément particulière. Certains espèrent en profiter jusqu'au tout dernier moment. En tout cas à Paris, où les carnets de réservation des restaurants sont complets. C'est le cas notamment dans ce restaurant Le Mesturet, dirigé par Alain Fontaine.
On est complet maintenant depuis ce matin, ce qui ne nous était pas arrivé depuis très longtemps. Mais ça nous fait un plaisir important parce qu'on sent que ce complet vient d'une solidarité très forte. Tout le monde a répondu à l'appel et il ne nous laisse pas tomber. On va avoir un sourire avec nos yeux, mais un sourire ému. Ça va être la fête toute la soirée. On va passer de table en table. On offrira peut-être l'apéritif, mais peut-être à tout le monde aussi. Je ne sais pas, mais je sais que ce ne sera pas une soirée... Ça ne sera pas la der des der, c'est clair, mais on va le faire parce qu'il ne faut pas qu'on laisse tomber. À tous les restaurateurs de France, ne baissez pas les bras.
Et on entend l'émotion de ce restaurateur parisien avec Laura Taouchanoff.
Un couvre-feu auquel le monde de la culture n'échappera pas. Les professionnels, épaulés par leur ministre, espéraient une dérogation. C'est non, a répondu aujourd'hui le Premier ministre. Il ne peut pas y avoir d'exception.
Cinéma, théâtre, salle de spectacle tentent donc de trouver la parade et de modifier, par exemple, les horaires des représentations. Encore faut-il que les spectateurs, eux, soient prêts également à changer leurs habitudes. sud.
Oui, tout ça alors que les vacances de la Toussaint débutent ce soir.
Et les Français qui en ont les moyens vont pouvoir partir. On verra tout à l'heure comment ça se passe du côté des routes. Certains, en tout cas, espèrent peut-être contourner le couvre-feu en allant dans des zones qui ne sont pas concernées par ce confinement nocturne.
Et certaines stations balnéaires s'en inquiètent et prennent des mesures. Elles redoutent cet afflux d'urbains potentiellement contaminés.
Elles décident d'appliquer elles aussi des couvre-feux. C'est le cas au Touquet, où le maire a pris cette décision pour anticiper une arrivée massive de Parisiens. La Baule instaure quant à elle le port du masque obligatoire partout sauf sur la plage.
Un nouveau protocole sanitaire pour les entreprises, il a été présenté aujourd'hui, Olivier Samin, comme promis, avec comme principale nouveauté un télétravail qui ressemble de moins en moins à une option.
Oui, les entreprises situées dans les zones soumises au couvre-feu doivent désormais fixer un nombre minimal de jours de télétravail par semaine pour les postes qui le permettent. Dans toutes les autres zones, le ton est moins pressant, mais les employeurs sont invités à faire la même chose. Et tout ça doit se faire dans le cadre du dialogue social de proximité. À la télévision, l'autre soir, Emmanuel Macron avait préconisé 2 à 3 jours de télétravail par semaine. Là, il n'y a pas de quantum, mais on comprend clairement que les entreprises qui ne feront rien seront dans le viseur de l'administration.
Et Olivier, ce protocole fixe aussi des nouvelles règles, cette fois pour les salariés qui continuent de venir au bureau.
Oui, dans les zones soumises à couvre-feu, les entreprises doivent organiser le travail pour que tout le monde n'arrive pas et ne reparte pas au même moment. En ce qui concerne les repas à la cantine, le ministère du Travail annonce qu'une fiche va être rédigée, prenant en compte les évolutions récentes. En clair, transposant au restaurant d'entreprise la règle des 6 personnes maximum par table, désormais en vigueur dans les restaurants classiques.
Olivier Saminge, du service économique d'Europe 1.
Quatrième mise en examen pour Nicolas Sarkozy dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007, cette fois pour association de malfaiteurs.
Oui, ce chef d'accusation contre un ancien président, c'est une première sous la Ve République. Nicolas Sarkozy estime que son innocence est à nouveau bafouée.
Audience très émouvante aujourd'hui au procès de Sid Ahmed Glam devant la cour d'assises spéciale de Paris.
Oui, jugé pour l'attentat avorté contre une église de Villejuif en 2015 et pour la mort d'Aurélie Châtelain, dont la famille est venue témoigner à la barre aujourd'hui sous les yeux de l'accusé, avec Justin Morin, une émotion particulière pour l'ex-compagnon de la jeune femme, le père de leur fille.
Oui, si Michael, regard bleu et sombre, a tenu à s'exprimer en premier, c'est pour leur fille, Juliette. Elle avait 5 ans quand sa mère a été assassinée, elle en a 10 aujourd'hui. Il interpelle les accusés. Si vous pouvez encore voir vos enfants, profitez-en. Moi, Juliette, quand elle veut un câlin de sa mère, je l'emmène au cimetière. La douceur qu'elle touche, c'est celle du granit, c'est froid. Admettez-le, c'est pas juste. Pour elle, il note tout, s'enregistre le soir après le procès, archive ce qu'il peut archiver pour qu'un jour elle puisse comprendre. Le père, la mère, puis la petite sœur d'Aurélie Châtelain lui succèdent à la barre en pleurs. Mais les caresses, les regards qu'ils échangent font chaud au cœur. « Que ressentez-vous, monsieur Glam ?» demande alors la présidente à l'accusé. Il répond doucement, choisit ses mots. « J'ai beaucoup de compassion, je m'associe à leur douleur. » Quand soudain, dans le box, un autre accusé lève la tête et le coupe brutalement. « Vas-y, ferme ta gueule et avoue !» L'incident a forcément marqué Michael, l'ex-compagnon d'Aurélie Châtelain.
Je ne vais pas le remercier pour sa réaction, on est bien d'accord, mais je suis content que quelqu'un ait réagi. Enfin, les propos de M. Glam ne concordent pas avec les émotions qu'il est censé faire passer. Dire qu'il s'associe à nous, j'ai du mal à accepter.
À la sortie de l'audience, les proches d'Aurélie Châtelain ont partagé leur soulagement, une respiration dans ce procès. Jeudi prochain se déroulera l'interrogatoire de Sid Ahmed Glam, une nouvelle épreuve pour la famille.
Justin Morin qui suit ce procès pour Europe 1.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal avec Isabelle Millet à 19h10 et on part en Grande-Bretagne où les négociations sur le Brexit s'annoncent compliquées. Boris Johnson ne veut rien lâcher, l'Union européenne non plus.
Oui, on en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors cette fois, l'heure est vraiment grave. L'Union européenne envisage une rupture sans accord.
Absolument, et c'est Emmanuel Macron qui a brisé le tabou lors de l'ouverture du Conseil européen qui se tient en ce moment même à Bruxelles. Le président français a été extrêmement clair. Les pêcheurs ne seront pas sacrifiés sur l'autel du Brexit. Et si la Grande-Bretagne s'entête à vouloir leur interdire ses eaux en refusant tout compromis raisonnable, eh bien, la France envisage, sans le moindre état d'âme, une rupture sans accord commercial, donc ce fameux « no deal » que les négociateurs européens cherchaient à éviter depuis maintenant des mois. Le problème, c'était que justement, Londres avait fini par croire que Bruxelles serait finalement prête à céder à toutes ses exigences par peur d'un divorce sans consentement mutuel. Et c'est cela qui poussait Boris Johnson à se montrer inflexible sur le seul sujet où les Britanniques sont effectivement en position de force, à savoir ses accès à leurs eaux poissonneuses. Ils veulent donc imposer une limitation drastique des droits de pêche dans la Manche en exigeant une renégociation annuelle des quotas, chalutier par chalutier, espèce par espèce, ce qui n'offre aucune garantie durable aux marins et qui surtout est impossible à mettre en œuvre. L'Europe a donc décidé collectivement, ce qui est tout à fait notable, de refuser cet ultimatum et de soutenir la position française.
Les 27 ont donc conditionné la signature d'un accord sur le Brexit à un compromis sur la pêche.
Voilà, en tout cas, le Conseil a clairement affirmé aujourd'hui que les progrès réalisés ne sont toujours pas suffisants pour qu'un accord soit conclu avec la Grande-Bretagne, sachant que la date butoir, c'est quand même le 31 décembre et que ça se rapproche, que les Britanniques ont en fait bien plus besoin de signer un accord global de libre-échange avec les Européens, parce que le marché unique est le principal débouché commercial de leur économie, y compris d'ailleurs pour le poisson. L'Europe, en revanche, n'a vraiment aucun intérêt à ouvrir sans condition ses portes à un concurrent qui pourrait subventionner librement certains de ses secteurs industriels et ne plus appliquer les engagements environnementaux ou sociaux en vigueur sur le continent, donc le beurre et l'argent du beurre. Cela fausserait la concurrence de manière tout à fait déloyale et ferait payer le Brexit aux Européens, ce qui n'est pas acceptable.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est donc tous les soirs dans le journal de 19h. S'il y a bien une chose que les Britanniques nous envient, ce sont nos sommets enneigés. 70 cm de neige et un grand soleil, ça fait rêver. Condition idéale ce week-end pour l'ouverture des tout premier domaine skiable.
Et oui, à Tignes et aux Deux Alpes, ça sent déjà le vin chaud. Et certains d'entre vous vont peut-être profiter de ces vacances de la Toussaint qui débutent pour partir à la montagne, même en altitude. Attention, hein, même en altitude, Romain Nocquet, il y a quand même quelques règles à respecter. Hein.
Déjà, rassurez-vous, vous ne serez pas obligé de skier avec votre masque. En revanche, vous l'avez dit, vous devrez le porter dans les lieux clos quand vous irez acheter votre forfait, par exemple. Là-bas, il y aura du gel hydroalcoolique à disposition. Vous en trouverez aussi dans les restaurants d'altitude, où la jauge sera limitée, 6 personnes maximum par table. Et des restrictions, il y en aura même jusqu'au pied des remontées mécaniques, détaille Frédéric Porte, le directeur de la station de Tignes.
Dès lors que nous sommes dans une file d'attente, le port du masque est obligatoire. Et puis dans le funiculaire ou ensuite dans le téléphérique, eh bien là on est dans une configuration similaire à un transport en commun.
Dans le télésiège comme le métro, donc, il faudra mettre un masque ou un tour de cou filtrant. C'est un nouvel accessoire développé par plusieurs marques, comme celle d'Audjakmar, monitrice à Tignes.
C'est comme une grosse écharpe. Là, il suffit de monter et descendre le cache-cou. Ce sera beaucoup plus agréable parce qu'il faut effectivement, pour enlever un masque, il faut enlever ses gants, enlever son casque. Le masque va geler, va être mouillé et va finir au fond de votre gorge, limite à vous étouffer. Donc, ce n'est pas du tout adapté.
Le tour de cou spécial Covid, lui, est breveté, lavable avec des motifs de téléphérique, de flocons, de petits oiseaux. Certains trouveront ça beaucoup plus chic qu'un masque jetable.
Effectivement, belle innovation. Merci Romain. Ok, alors pas sûr que vous soyez nombreux à aller au ski dès ce soir, mais on va voir quand même ce que ça donne du côté de vos conditions de circulation.
Le radioguidage sur Europe 1 avec les opticiens Atoll pour être sûr de bien voir aussi la nuit au volant.
Premier départ donc pour ces congés de Toussaint. Ça donne quoi pour l'instant, Aude Leroy, sur les routes?
Mais écoutez, c'est plutôt calme en ce moment. Bison Futé a annoncé une circulation difficile avec de l'orange dans le sens des départs. Eh bien, en ce moment, vous quittez la capitale avec, je dirais, les difficultés habituelles du soir. Il y a en ce moment à peu près 300 km de bouchons cumulés en Ile-de-France. Alors, ça bloque évidemment sur le périphérique intérieur à l'ouest et puis aux portes de Paris, hein, Porte d'Orléans, un petit peu sur les A6A et A6B, et puis à l'est sur le début de l'A3. Dans le sud-est, le trafic est ralenti aux abords de Villefranche-sur-Saône, aux abords d'Écully, près de Lyon, sur la 7 en direction du sud, et puis aussi quelques difficultés de circulation aux alentours de Grenoble, de Champéry, d'Aix-en-Provence et de Marseille, mais rien de bien méchant.
Merci Laura, bonnes vacances à tous ceux qui en prennent.
Merci Isabelle, très bon week-end à vous. On vous retrouve aux manettes, tiens d'ailleurs, du 18-20 à partir de lundi.
À lundi.
Anissa qui nous annonce une nette amélioration du temps à partir de demain, ça va faire du bien.
Oui, presque partout, hein, Julien, parce que sur le nord-est, le temps est encore couvert. Demain, attention aux nombreux brouillards. Si vous nous écoutez sur le quart sud-ouest, en Occitanie par exemple, ou sur le nord-est des Ardennes jusqu'au Pays Lyonnais, là c'est demain des brumes et des brouillards assez épais qui vous attendent. Ailleurs, les éclaircies seront déjà là. C'est dans le sud des Pyrénées jusqu'à la Côte d'Azur que le soleil est le plus présent. Il fait très beau dès le début de journée. Dans l'après-midi, les éclaircies se généralisent. Le mistral faiblit, autre bonne nouvelle. Dans les plaines et les vallées du centre-est, la grisaille est encore tenace demain après-midi. Et à cause de ce ciel dégagé sur l'ensemble du pays, eh bien il fait plus frais, forcément, il y a moins de nuages. Il fait plus frais avec des valeurs négatives, notamment en Auvergne, des températures effectivement avec des gelées blanches. Et puis 0 à 11 degrés demain matin sur l'ensemble de la France, 9 à 19 dans l'après-midi, 14 pour Paris et jusqu'à 21 degrés en Provence sous le soleil. Et rassurez-vous, ces valeurs là autour des 20 degrés, elles vont se généraliser un peu partout à partir de lundi.
Bien, formidable. Profitez-en. Alors on a hâte. Merci Anissa, très bon week-end à vous.